Depuis leur arrivée sur le plateau des Petites Roches et jusqu'à aujourd'hui, les établissements hospitaliers de Saint-Hilaire-du-Touvet ont concentré de nombreuses histoires et expériences de vie. À l'époque, des paquebots vous proposent de découvrir les témoignages en mosaïque de ceux et celles qui ont fait la vie des établissements. Une grande part de la vie de Pierre Martin s'est articulée autour des établissements hospitaliers de Saint-Hilaire-du-Touvet. D'abord patient, puis kinésithérapeute sur les trois établissements. Également habitant impliqué dans la vie du village. Écoutons cette mémoire d'aller et retour entre expériences collectives et vécu personnel nous livrer ses multiples récits.
En 1916, il y a eu vraiment un cri d'alarme de l'association métallurgique et minière. Vous savez, en plus, il y avait eu la fin de la guerre de 14, il y avait beaucoup de gens malades. C'était des époques où il mourait plus de 100 000 personnes par an de tuberculose. C'était affreux. Et notamment, chez les mineurs, il y avait non seulement la tuberculose, il y avait aussi la silicose. Et ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Donc il y a eu un gros boom à cette époque-là, en France. Ils ont décidé de construire des établissements. Et à un congrès où il y a eu ce cri d'alarme qui a été lancé, il a dit il faut absolument faire quelque chose. Il se trouve qu'il y avait un industriel de Brignoux, je crois, qui était dans cette réunion et qui connaissait bien le projet qu'avaient eu deux Grenoblois, Dr Berlioz et Félix Jourdan, qui connaissaient le coin là-haut et qui avaient déjà projeté de faire quelque chose, mais ils n'avaient pas pu réunir les fonds, etc. Il a parlé de ce projet, ça a fait son chemin, et ça a été un enthousiasme, tout le monde était tout à fait d'accord pour ça. Alors, la Chartreuse, est, parmi nos trois massifs, c'est le plus arrosé. Il est très humide. Bien entendu, comme les couches géologiques sont inclinées côté Chartreuse, la plupart de l'eau qui dégringole, elle part, les trois quarts partent sur le côté Chartreuse. Mais il y en a quand même des infiltrations qui se font, et en plus, qui donnent une source. Et en plus, il y a une autre source qui est fournie, alors ça c'est assez curieux, comme à l'intérieur de la dent de Crawl, la température est à 4-5 degrés constante, avec la chaleur, il y a un phénomène de condensation. Et ça coule sans arrêt, y compris et notamment l'été, c'est encore surtout l'été. Ce qui donne une source à peu près constante, et parce que ça c'était important, pour mettre des établissements comme ça, c'est sûr qu'il faut de l'eau. Ils n'auraient pas pu partir dans un endroit où il n'y avait pas de possibilité d'eau, quoi. C'était une catastrophe. Et quand on voit les photos des routes à cette époque-là, si vous voulez, la caractéristique du plateau, incontestablement, c'était son isolement. Imaginez que vous enlevez la route qui monte des deux côtés, que ce soit du Touvet ou de l'autre côté, c'est quelque chose qui restait complètement coupé du monde. Pour aller à Grenoble, il descendait les 700 mètres à pied du Pal de Fer et il prenait la diligence, puis après le tramway qui faisait Grenoble-Chaparayan et qui passait à Montfort. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, on ne peut pas monter pour les travaux, il faut aller quelque chose. C'est là qu'ils ont eu l'idée du funiculaire. Le funiculaire, ça représente un investissement énorme. Ça a tout été pris par la caisse des forges de l'association métallurgique et minière. Vous pensez que quand on a pensé ce projet, les habitants de Saint-Hilaire se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On va tous tomber malades, nos vaches vont tomber malades. Il y a eu une grosse réticence au début. Mais finalement, ça s'est bien passé parce que la municipalité était d'accord. Ils ont tout de suite vu l'intérêt pour le futur, pour les travaux. Et pendant ces travaux, notamment du funiculaire, il est certain que beaucoup d'hommes du plateau sont devenus terrassiers, mineurs et tout ça. Ils ont travaillé pendant 3 ans. Là. Le tunnel a été fait en 1888 et c'est en 1920 ou 1922 que la route est devenue départementale, elle n'était qu'à une seule voie. Je parle du tunnel de Saint-Pancras, parce que c'est surtout la liaison avec Grenoble. Quoi. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu les carréraux, la route s'est améliorée. Bien entendu, au début de ces établissements, il y avait quatre hôtels qui s'étaient montés. Mais disons que les gens ils logeaient dans les hôtels en bas, ils montaient à pied. Parce qu'il faut dire que on voit bien il y a le plateau avec le village de Saint-Hilaire, et comme on construisait toujours les établissements avec un relatif isolement, c'est pour ça qu'ils ont construit au-dessus, c'est-à-dire une centaine de mètres plus haut. C'est Rocheplan, la minière, qui avait acheté tout le terrain au début. Donc ils se sont placés, bien entendu, à la meilleure place. C'est pour ça que, en voyant tous ces établissements qui sont en train de disparaître complètement, les autres, ça peut se comprendre. Rocheplan, je regrette que ce bâtiment qu'on n'ait pas trouvé une solution, parce qu'il n'est pas du tout dans une zone d'avalanche. Il a un petit parc devant, enfin c'était bon, bref. Donc ça, c'était la minière. Après, le département du Rhône a voulu construire un gros truc, un gros sanatorium. Ils ont racheté à la minière un bout de terrain en suivant. C'est assez marrant d'ailleurs parce que la minière leur a vendu le terrain plus l'architecte. Parce que c'était une condition. Bizarre, bizarre. Enfin bon. Et enfin, les étudiants qui attendaient depuis un bon moment... ça a été très long pour qu'ils rassemblent les fonds. Ils ont continué, ils ont acheté quand même un terrain. On se demande s'ils sont vraiment venus sur place, parce que quand on voit où ils sont, au bout, je vous assure que les architectes, pour construire... moi, je sais que pour faire la piscine, il a fallu qu'ils creusent à 7 mètres de profondeur pour trouver pour être sûr que la piscine ne s'en va pas dans le... Le début des établissements, il faut dire qu'il y avait les pompes funèbres, il y a eu même une période où ils décrivent, j'ai vu, un ou deux décès entre les 3 un ou deux décès par jour, c'est vous dire, avant l'arrivée des antibiotiques. Après, ça c'est arrivé pendant la guerre, et après, avec la streptomycine et tout ça, ça a stoppé, voilà. Projet, c'était d'être prof d'éducation physique, mais je n'avais pas les moyens de faire 4 ans d'études. Il y avait le gros barrage de la première partie de professorat. Alors je suis parti à l'armée, mais je ne pensais pas y rester si longtemps, parce que c'était la période de la guerre d'Algérie qui a commencé. J'y suis resté 27 mois. En revenant, j'avais une petite cagnotte, j'ai pu me lancer à fond dans le professorat. J'ai réussi ma première partie, j'ai eu un poste de délégué pour pouvoir continuer mes études en gagnant ma vie. J'ai été nommé au lycée Condorcet à Paris. Mais là, j'étais épuisé par je pense que c'est d'abord, d'une part, les études. Je crois que c'est surtout les transports parisiens. Tous les matins, 1h30 de bus et de métro. Je crois que c'est ça qui m'a tué. Donc, trois mois après, je me suis effondré. Et c'est là qu'on m'a découvert une tache au poumon au point de vue tuberculose. C'est là que j'ai connu Saint-Hilaire-du-Touvet, le sanatorium des étudiants de France. Donc le médecin qui m'a, tout de suite quand il m'a convoqué, il m'a dit avec la tuberculose, une situation dans le sport, faut une carrière, c'est pas possible. C'est le repos, c'était l'époque, c'était 8 mois de cure, etc. Bon, ça c'était en 58-59. Et alors là, j'en ai pris un coup derrière la tête, bien entendu, tout s'effondrait. Mais comme les études anatomie, physiologie, tout ça, le professorat ont passé c'était le même programme que la première année de médecine, et il y avait en même temps un diplôme qui avait été créé quelques années avant, qui s'appelle le kinésithérapeute. Donc je suis parti par là, je suis remonté à Paris pour faire un diplôme de kiné, et juste à cette époque-là, en partant, lorsque j'ai fini mon diplôme, le médecin directeur des étudiants a décidé d'ouvrir sur le plateau un poste à mi-temps d'ailleurs avec Rocheplan de kiné. C'était tout à fait nouveau. Je me suis dit, pour commencer, pourquoi pas commencer par un coin que je connaissais bien, que j'avais apprécié au point de vue des services des études. Je suis donc revenu sur Saint-Hilaire, c'était en 1960, et j'ai travaillé une première année comme kiné. Je faisais les trois établissements parce que j'étais aux étudiants, j'étais aussi à Roche-Plan, mais en même temps, il y avait encore des interventions chirurgicales qui se passaient au bloc opératoire du Rhône, qui était un bloc ultra-moderne qui, dans le bâtiment du Rhône. Donc j'étais la seule personne qui sillonnait les trois établissements, alors que ces établissements, c'était frappant comme ils étaient cloisonnés. Et moi, tout de suite, comme il y avait un gros service des études et que j'avais déjà une première partie de professorat, j'ai eu la possibilité de basculer sur le service des études, rattaché à l'Académie de Grenoble, l'Université de Grenoble. Et là, j'ai eu la chance, il y a un directeur jeunesse et sport qui a ouvert un poste, c'était un peu un poste expérimental, parce que je me suis lancé sur le réentraînement à l'effort. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, bon, des jeunes comme nous, on ne mourait plus de tuberculose parce qu'on avait trouvé des antibiotiques, donc on stoppait la maladie, mais on était resté sur le système des cures sanatoriales qui duraient 6 mois, 8 mois, 1 an. Les étudiants passaient leur année universitaire pratiquement 1 an, quoi. Ils faisaient leurs études. Et moi, j'ai intégré ce service-là. D'ailleurs, j'ai fini après, passer le CAPES pour régulariser mon poste. Finalement, la mission que je me suis donnée, c'était un petit peu la revanche sur la maladie. Et ça a très bien marché. J'ai eu la chance de tomber sur un directeur, le médecin, le docteur Puech, qui lui était tout à fait favorable à ça. Et au bout de 2-3 ans, en 64, on a sorti un film sur le réentraînement qui expliquait le réentraînement en 3 phases que j'avais montées. Et ça a fait, au Congrès national de la tuberculose, ça a fait un véritable scandale. Ça a fait un véritable scandale parce que, alors que les gens faisaient des 6 mois, 8 mois de cure, on s'est aperçu qu'avec des jeunes, dans le troisième niveau fonctionnel, je les emmenais en balade, je les emmenais en spéléo autour du glas. L'hiver, je les emmenais balader en ski de fond. Donc, pour des médecins qui étaient dans les saunas traditionnels, ils trouvaient ça extraordinaire. Alors bien entendu, cette expérience, quand on a commencé à lancer ça, le médecin était d'accord, j'avais pas de locaux. Moi, quand je suis arrivé, on m'a donné simplement la plus grande chambre. Il y avait une glace au mur, il y avait une table de massage, un medicine ball dans un coin, il n'y avait absolument rien. Et quand le médecin s'est aperçu, on a fait quelques rapports, il s'est aperçu du succès que ça avait vis-à-vis de ses collègues. Il a tout de suite réagi en disant « il faut tout de suite faire des locaux ». Alors il a fait une salle de gym, c'était super pour moi. Les salles de gym, douche, salle de jet, salle de relaxation, musculation, enfin sauna aussi. Enfin, incroyable. Donc j'ai pu avancer comme ça. Dans une ambiance tout à fait étudiante. Ça fait drôle de penser qu'il y avait une ambiance comme ça, alors qu'on est dans un milieu quand même de gens qui se soignent. Mais il faut dire aussi qu'il y avait, on peut dire presque les 3/4 de garçons, garçons et filles, quoi, mais chez les garçons, et il faut dire que c'était le début de la guerre d'Algérie. Donc ces garçons qui étaient là, d'une part, oui, bon, ils craignaient plus pour leur vie, quoi, bon, c'était un temps à passer, ils étaient dispensés du service militaire, donc ils gagnaient 1 an, et non seulement ils gagnaient cette année de service militaire, mais en plus ils continuaient leurs études. Parce qu'il y avait en plus des cours que je vous ai dit, il y avait les profs qui montaient de la fac de Grenoble, des cours, c'était super organisé, quoi. Et il y a des tas de gens qui sont passés là, enfin des tas de... Et puis au point de vue conférence, il y avait des tas de... Il passait des tas d'hommes politiques, des tas de... Enfin, un peu de tout, quoi. C'était assez extraordinaire, on a appelé ça l'Université des Neiges, parce que c'était très culturel. C'était un établissement pilote en Europe, surtout à cause de l'organisation des études. Alors l'organisation des études, les chambres des étudiants, c'était toutes des chambres à 2 lits, et chaque lit était équipé d'un commutateur avec un casque émetteur sur 7 lignes. Tous les cours étaient enregistrés par des étudiants bénévoles dans toutes les facs de Grenoble, sur une bande magnéto. Ces bandes, à la fin de la semaine, montaient aux étudiants. Et il y avait un auditorium qui faisait le programme et qui diffusait la semaine suivante tous les cours. C'est-à-dire que quand on rentrait dans une chambre, on voyait des étudiants avec le casque sur la tête. Il y en a un qui écoutait sur la ligne 6 un cours de pathologie médicale. Il y en a un autre, un cours de droit civil. Enfin, c'était intéressant. Plus une ou deux radios internes, quoi. Moi, à la période où je me suis soigné, donc je suis arrivé en 58, 59, donc c'est là que j'ai découvert, c'était la grosse ambiance, de, je vous dis, culturelle, avec beaucoup d'interventions. Chaque semaine, il y avait une ou deux conférences avec des gens, je ne sais pas moi, très variés, comme Haroun Taziev, qui est des tas de gens, ou bien des... là, dans les personnalités que je notais, là, que j'ai vues, je parle de, donc, avant, Paul Claudel, Jean Giono, Albert Camus, y compris les chanteurs, vous voyez, Tino Rossi, Charles Trenet, Georges Brassens, Jacques Brel, tout ça, Barbara. Jacques Brel devait passer à Grenoble en soirée et spontanément, il est venu. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'artistes qui montaient. Il n'avait pas peur d'aller dans ce milieu, hein, parce qu'il est monté bénévolement, chanter entre 5 et 7, entre 5 et 7 aux étudiants. C'est, dans ces cas-là, le téléphone marche pas mal, parce que je peux vous dire que le plateau l'a vite su, et la salle, il ne fallait pas arriver en retard.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent.
Il y avait un petit bâtiment qui avait été fait un peu à part, qu'on appelait Jamati, et c'est là qu'étaient hospitalisées les filles. Et le grand bâtiment, il y avait les garçons. Et puis, comme c'était séparé, notamment, un peu, c'était vers la fin de la guerre, là, c'était pas normal, parce qu'il y avait beaucoup d'activités le soir, et les filles, elles étaient, s'il faisait froid et tout, pour sortir, c'était pas commode. Alors, on a fait un tunnel qui reliait donc les filles et les garçons. Donc, tunnel hautement stratégique, bien entendu. Et il y avait, je raconte ça, là, parce que c'était un des gars qui avait marqué, il y avait la veilleuse de nuit, c'était une dame retraitée, très, très gentille, je me rappelle très bien, cette dame. Et elle était juste, il y a un petit escalier qui descend et le tunnel démarre juste en dessous d'elle. Bon, et elle avait été, on appelait ça l'aquarium, elle était dans son bureau, là, elle lisait ou elle tricotait, mais elle était super, elle ne dormait pas de la nuit. Hein, bon. Et les étudiants s'étaient aperçus qu'elle partait à minuit faire sa ronde. Donc elle descendait l'escalier, elle allait jusqu'à Jamati, elle revenait, toc, ça devait prendre 10 minutes, elle se réinstallait et elle refaisait une ronde une heure après. Et les étudiants, alors il y en a un, c'était un gars qui avait fini ses études, qui était chef de chantier, qui était ingénieur, je crois, je sais pas. Il avait réuni toute une équipe, il a dit, il faut qu'on fasse un mur sur ce tunnel, on a à peu près 40 minutes pour le faire. Alors, ils m'ont raconté tout ça après, parce que dans ces établissements, vous aviez toujours un coin où il y avait des travaux, des sacs de ciment, un truc comme ça, un peu plus loin. Alors, il y a ceux qui amenaient les moellons, il y a ceux qui gâchaient le ciment un peu plus loin là-bas. Ils avaient fait attention de ne pas prendre du ciment prompt pour que le service entretien le lendemain ne soit pas trop embêté pour tout casser. C'était quand même... Alors, pas plus tôt, elle a eu fini sa ronde, ils sont descendus, ils travaillaient tous pieds nus, rien qu'on entendait, parce que c'était presque à côté de cette dame. Ils ont monté, toc, 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 les moellons, ils ont muré le truc, ils ont nettoyé, tout impeccable, ils ont pris une photo, tout ça. Et puis, alors, vous imaginez, 1h du matin, cette brave dame descend, qu'est-ce qu'elle trouve ? Un mur, elle était passée, heureusement qu'elle n'était pas cardiaque, parce qu'il y avait de quoi. Ah ! Quelques temps après aussi, à un moment donné, elle a vu cinq jeunes qui arrivent dans le couloir, dans le hall, devant son bureau, à poil complet, avec un petit loup sur la tête et une bougie à la main, et ils se mettent à faire la ronde. Alors elle sort, dit, mais qu'est-ce que vous faites là, mais allez-vous coucher, mais c'est pas possible, etc. Il faisait pas de bruit, hein. Il faisait la ronde. à poil complet. Alors, elle avait mis sur son cahier, compte rendu, 4 ou 5, 5 ils étaient, je crois, une ronde, tout nu, etc. Bon, le lendemain, il y a le médecin qui l'appelle, et qui lui... Et moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus amusant, parce que le médecin lui dit, mais vous sauriez les reconnaître? Elle a dit, oh ben non, monsieur, ils étaient tout nus. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'était un milieu étudiant, mais un milieu étudiant de brassage. Quand on est dans une fac, on est entre des gens qui sont dans une orientation. Là, vous aviez de tout. Ouais. Depuis des gens qui étaient aux Beaux-Arts, qui faisaient des spectacles, des médecins. La tranche d'âge, disons que c'était 20-30 ans. Au point de vue du gag, je disais que le médecin directeur, ça le faisait plutôt sourire. Une fois, il y avait un garçon qui faisait des études d'histoire, une agrégation ou je ne sais pas quoi. C'était un gars qui parlait aussi anglais, il pouvait prendre l'accent anglais. Et puis ils avaient lancé l'idée qu'il y a un journaliste britannique qui revenait d'Indochine et qui donnerait le point de vue britannique sur la question après les événements d'Indochine, etc. à cette époque-là. Il y a 2-3 journalistes qui sont montés de Grenoble. Et avant cette conférence qui avait lieu le soir, en passant dans le couloir, le médecin directeur, le docteur Puech, dans un cabinet de toilette, il entend deux gars qui chuchotaient. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il a tapé pour faire ouvrir. Et là, il y a l'étudiant qui a dit, écoutez, docteur, on vous dit ce qu'il en est. C'est un gag ce soir, c'est lui, qui était en train de le grimer parce qu'il était très grand, etc., ses caractéristiques, c'est lui qui fait la conférence, etc. Bon, mais le médecin n'a rien dit, il aurait pu... Bon. Et le soir, il fait son truc, il avait bien potassé son truc, hein. Il a fait un truc avec un petit accent anglais, etc. Ça a duré au moins 20 minutes. Puis après, dans la salle, ils se sont dit, mais celui-là, lui qui est... qui est passionné d'histoire, etc., il devrait être dans la salle, il le cherchait partout. Et c'est là que le poteau rose il a été découvert. Quoi. Ouais. Ouais, enfin, il était content, il avait réussi son gag. Mais pour en revenir au médecin directeur, lui, il était au fond de la salle, et ça l'amusait de voir 2-3 journalistes qui avaient leur canevé, ouais, et qui prenaient les notes, etc. Alors, ils n'étaient pas contents. Hein. C'est pour donner un peu l'ambiance dans laquelle on était. Ces cures longues se sont terminées et ils ont pensé à une reconversion. Et dans les années 70 à 80, s'est établie cette reconversion vers la rééducation. Ce sont devenus des maisons de rééducation. Et les étudiants se sont tournés vers le domaine des handicapés physiques. Alors, bien sûr que quand le médecin directeur m'a dit... On envisage cette orientation. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je lui ai dit, vous croyez que la topographie du terrain se prête bien à des fauteuils roulants, etc. Et il m'a dit, oui, vous avez tout à fait raison, mais comme il n'y a aucune structure en France qui permet à des gens qui sont handicapés, qui se plantent, accident de la route, etc., qui se retrouvent en fauteuil pour continuer leurs études, comme on était très bien structuré au point de vue d'études, on voulait profiter de ça. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté par là. Alors du coup, moi, j'ai fait aussi des projets pour avoir d'autres moyens de faire le sport et de réentraîner. Et c'est là qu'on a eu... On a fait construire un gymnase, une piscine, un terrain de sport. Enfin, c'était... pour ça, j'étais béni, quoi. On critique souvent, des fois, on dit qu'on ne peut pas suivre ce que font les architectes, etc. Moi, je n'ai pas à me plaindre parce que j'ai beaucoup travaillé en relation avec les architectes. Et par exemple, quand on a construit la piscine, j'ai tout de suite pensé à l'utilisation pour les enfants du plateau qui puissent rentrer sans rentrer dans l'établissement. C'est pour ça qu'on a fait une entrée qui était indépendante. Et ça a bien servi après parce qu'au point de vue vie locale, tous les enfants du primaire ont profité de la piscine, ils savaient très bien nager, etc. quoi. les gens qui arrivaient, les jeunes qui arrivaient, il n'était pas question de commencer à leur faire faire de la gym normale. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'ils passaient une première phase d'environ un mois et demi, des fois deux mois, en période, disons, qu'on appelait alité. Ces gens-là étaient alités énormément, 5-6 heures par jour. Donc vous les voyez dans un lit, le dos courbé, en train d'étudier. Bon. Donc il y a une atrophie musculaire. Alors je me suis dit, en premier, il faut maintenir ce qu'on peut maintenir. C'est-à-dire par un travail complètement statique, sans aucun essoufflement, mais au moins on fait travailler les muscles pour éviter que ça se dégrade. Et avec l'expérience que j'avais eue, j'avais un peu une revanche à prendre. Bon, donc je l'avais derrière la tête, et quand j'ai vu que je pouvais mener ça, pour moi c'était extraordinaire. J'ai été passionné par mon métier, quoi. Par exemple, au niveau handicapé, on a été les premiers en Isère et en France, bien entendu, à lancer le ski assis. Maintenant, quand on les voit, il y en a un qui est le dernier qui a eu une médaille à Pyongyang, là, en Corée du Sud, au dernier Jeux paralympiques. C'est un garçon, il est arrivé, lui, juste quand moi je prenais ma retraite, quoi. En 85, on a fait le premier stage de ski assis en France à Prapoutal-lès-Settelot. À part ça, j'ai pu suivre des sportifs de haut niveau. Et je peux vous dire que quand vous êtes avec des gens au départ d'une descente, qu'ils enfilent le casque et que vous savez qu'ils vont passer la ligne d'arrivée à plus de 90 à l'heure, vous savez, on a la trouille pour eux. Hein. Enfin voilà, c'est tout pour dire que dans cette vie locale, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Mais ça vient, comme vous dites, d'un microcosme qui était très très dynamique, quoi. Il y a toujours eu un atelier de peinture, et notamment il y a une dame qui habite Saint-Nazaire-les-Aimes, Simone Graciac, et qui depuis 1970 avait utilisé une salle 12, et elle appelait ça l'atelier 12, pour que les gens aillent s'exprimer par la peinture. Alors ça a été surtout important, je pense, vers les années 90, parce que les années 90, dans la reconversion, il y a eu la période du sida qui est arrivée. Dans les années 90, et là j'en ai vu des tas de décès. Et il y a des tas de gens qui allaient s'exprimer, qui n'avaient jamais fait de peinture, mais qui faisait des dessins très forts dans ce domaine-là. Et elle avait... c'était extraordinaire, les documents qu'elle avait. Elle m'a dit, je remontais le lendemain matin, et ben, y en a un, il n'avait pas fini son dessin, j'apprenais qu'il était décédé, quoi. C'était vraiment, vraiment dur. Hein. Ça m'a fait d'autant plus de peine que, vers la fin des établissements, un coup, je suis monté, parce que j'avais fait des petits reportages avec elle, je l'ai pris des interviews en vidéo, pour qu'elle m'explique un peu comment elle le ressentait. Et elle avait gardé, elle avait fait deux tas. Un tas avec les dessins des sidéens et un tas avec les dessins des traumas crâniens d'accident. Et c'était un domaine de recherche extraordinaire pour des psychiatres, des trucs comme ça. Et je suis monté pour... Je me suis dit, il faut que je fasse un truc là-dessus. Et quand je l'ai vu, elle m'a dit, mais mon pauvre, figure-toi que je l'ai tout brûlé la semaine dernière. Alors ça m'a fait mal, elle était un peu déprimée parce qu'elle avait l'impression que tout le monde se foutait de ce qu'elle faisait. C'était un peu à l'abandon et elle avait tout brûlé.
Des querelles et des cris et de la vie à foison. À chaque étage, serment, chanson, rage, il y a de tout dans ma maison.
Là-haut, aux étudiants, juste à côté, il y avait un poste météo en relation avec Saint-Martin-d'Air. Ça datait de 1936, c'est pas d'hier. Hein. Depuis 1936, il y avait on transmettait de température, hygrométrie, etc., chute de neige, il y en avait, etc. Donc il y avait une plaque pour la chute de neige, une petite cabane où il y avait l'appareil d'hygrométrie, etc. Il y avait beaucoup de responsabilités données à des étudiants. Il y en avait un qui avait responsabilité de l'accueil. Par exemple, dès qu'il arrivait un jeune, quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par un étudiant qui m'a fait visiter tout ça. Plutôt que de prendre du personnel, c'était un ancien volontaire qui faisait... Et là, il y avait donc, à ce moment-là, un garçon qui était chargé de la météo. C'est-à-dire que tous les matins, à 7h du matin, il devait se lever, aller faire un truc, il prenait son téléphone, il l'appelait. Bon. Et il se trouve que celui qui y était, il était très gentil, mais un peu dans la lune. Et il y a des gars qui ont dit, on va lui faire un gag, je suis sûr qu'on est capable, ça marche. Un hiver, une nuit où il avait fait vraiment très beau, s'il allait tout aller, enfin, il n'était pas donc tombé de la neige, mais il avait été tombé de la neige avant. Ils se sont levés avant, ils sont allés ramasser de la neige, ils ont mis sur la plaque de contrôle 10 cm de neige qu'ils ont bien égalisé, bien plein, etc. Et puis, entendu, et ça n'a pas raté, le gars s'est levé, il est arrivé, il a pris ses notes, il a pris sa petite baguette, il a regardé 10 cm de neige, il a pris son téléphone, et il a téléphoné à Saint-Martin-d'Air, et il a dit, toc, Saint-Hilaire-du-Touvet, la nuit, 10 cm de précipitation. Bon. Si bien que ce jour-là, la radio, ils avaient dit, il a fait très beau sur toutes les Alpes, sauf qu'à 10 cm, il était tombé 10 cm de neige. Alors bon, ça a fait un petit scandale, et c'est à partir de là qu'ils ont dit, non, il ne faut pas laisser la météo là-haut, on la descend à la gendarmerie. Il y avait la gendarmerie qui était au village, ils ont pris les appareils, ils ont descendu là. Le couloir d'Avalanche, il est très bien répertorié. En 68, elle est descendue là, entre les deux, là aussi. Et après, c'est une période, on a eu une période de bien 10-15 ans avec énormément de chutes de neige. C'était vraiment énorme. On avait 4-5 mois de neige là-haut. Celle qui aurait pu être catastrophique, c'est en 1970. Parce qu'en 1970, il y a eu une coulée de neige qui a glissé devant le qu'on appelle le Rhône, les petites roches là. Et elle est rentrée, elle a pris les voitures, elle les a rentrées dans le hall, etc. C'était plein, presque jusqu'au hall. Mais ce qu'il y a, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, on sort par-dessous, si on veut. Ça fait une plateforme, mais il y a dessous. Tous les employés sortaient par-dessous, puisqu'il y avait beaucoup de neige. Et ils sortaient à 6h30, et ça s'est produit un peu avant 7h. C'est pour ça que ça aurait pu être une catastrophe énorme. D'ailleurs, il y a un article que j'ai gardé là, un article où il y avait marqué l'avalanche de Saint-Hilaire aurait pu provoquer le même désastre que Val d'Isère, que la catastrophe de Val d'Isère. Il aurait pu rester une vingtaine de personnes si c'était arrivé au moment où il sortait. C'est incroyable. Ah ouais, c'était. À ce moment-là, je peux vous dire que les établissements, il y a longtemps qu'ils auraient disparu. Hein. Ils auraient profité de l'occasion pour dire, allez, on s'en va, on dégage tout, c'est sûr. Parce que nous-mêmes, en 68, on a été coupés une journée complète pour la nourriture. Ils pensaient mettre les hélicos pour... Parce que la route était complètement bouchée. Puis les tractos sont arrivés assez vite pour déboucher. Mais enfin, c'est pour dire que ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de 68, on a dit, oh ben là, cette avalanche, elle passe là, dans cet endroit-là, il faut l'arrêter, etc. Et ils ont fait un espèce de, je ne sais pas comment on appelle ça, un gabion, je ne sais pas quoi, un gros tas en béton, ouais. comme un gros truc pour l'arrêter, mais comme si on avait pu, en mettant un gros tas de terre, l'arrêter. Vous pensez qu'une avalanche... Bon, c'est pour ça qu'en 81, quand elle est tombée sur cet obstacle, eh bien, elle est partie comme ça, deux côtés. Il y en a une qui est partie sur les chaufferies du Rhône et l'autre est rentrée dans les étudiants. Ça, moi, je ne comprenais pas qu'elle puisse rentrer dans les étudiants, parce que normalement, ce n'est pas son couloir. Mais ce sont ces travaux qui l'ont emmenée aux étudiants. C'était plein, ça avait rempli tout le hall d'entrée. Oui, oui. On a vraiment eu, dans toutes les avalanches qu'il y a eu, une chance inouïe. Parce que ce jour-là, par exemple, c'était le jour de la fête de Saint-Hilaire. C'était un dimanche. Moi, comme il y avait énormément de neige, ça avait dépassé 2 mètres. On était à 2,20 mètres à peu près de chute et ça continuait à tomber. Alors comme moi j'avais mon groupe, le troisième groupe entraîné, ouais. Moi ça me faisait un bon travail pour eux de physique. Je me suis servi de ce groupe bien équipé pour faire le chemin en dessous des étudiants. D'accord. Donc ils ont tassé, on a fait toute une travée de manière à ce que le personnel ne passe pas, ils ne pouvaient plus passer par la route, c'était trop dangereux, ça pouvait. Et ils montaient par là. Et ce jour-là, justement, quand l'avalanche est tombée en 81, eh ben, ils étaient en train de remonter par le chemin qu'on avait fait. Sans ça, ils se retrouvaient sous la barre. On a eu vraiment plusieurs coups, des coups de chance incroyables. Il n'y a jamais eu un mort. Mais enfin, des fois, c'était un peu limite. Hein.
Beaucoup de bruit, des querelles et des cris, et de la vie à foison. À chaque étage, serment, chanson, rage, il y a de tout dans ma maison.
Écoutez à l'époque des paquebots deux fois par mois sur les ondes 89 et 87.8 FM. Vous pourrez également écouter et réécouter ces émissions en podcast, connaître les dates de diffusion en vous rendant sur le site internet de Radio Grésivaudan www.radio-grésivaudan.org.